Bienvenue aux Apatrides de Zanonyme, votre rendez-vous bimensuel sur les phénomènes migratoires ici et dans le monde et sur tout ce qui les influence, les catastrophes, les crises, les guerres, les obsessions sécuritaires, le nationalisme, les peurs, les irrationalités.
Les irrationalités.
Merci. Petit cours de prononciation avec Mathieu ici.
Mathieu.
Donc, je suis Simon et vous avez reconnu Mathieu.
Bonjour.
Moi, c'est Simon. Je suis votre animateur pour cette édition du 21 mars 2024 en compagnie aussi de Marie-Ève à la régie actuellement. Bonjour, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous nous avez préparé beaucoup de contenu. En vrai, qu'on va avoir des actualités autochtones, la GRC, des femmes, la prison, les États-Unis, l'Amérique latine, la Manche, quelques brèves européennes, un agenda rempli de suggestions et trois nouveautés musicales, comme d'habitude. On est tous les deux jeudis en direct des studios de choc.ca ou en rattrapage à tout moment, bien sûr, et on peut aussi nous entendre sur les ondes de Radio Victoria au 107.9 FM dans l'Ouest canadien. On retrouve Mathieu avec les actualités, surtout Amérique latine, peut-être un peu États-Unis dans un court instant. Donc tout de suite, Mathieu, à toi la parole pour... on va se concentrer, je pense, surtout sur l'Amérique latine aujourd'hui.
Oui, sur deux pays, c'est-à-dire le Guatemala et l'Argentine particulièrement.
Parfait. Aucun lien entre les deux, là, j'imagine?
À part l'actualité, c'est okay. Vraiment ça. Exactement. Non, pas vraiment de lien. Bonne nouvelle en commençant pour le Guatemala. En décembre dernier, ça fait déjà quelques temps, mais on n'avait pas parlé, la Cour interaméricaine des droits de la personne a conclu que le pays, le Guatemala, était responsable de la violation des droits des Autochtones de son pays en octroyant un permis de construction à la minière canadienne Hub Bay Minerals pour du nickel. C'est une formidable victoire pour les Mayas Kekchi, indique l'Indian Law Resource Center, l'organisme qui a représenté les Autochtones dans cette affaire pendant plus de 20 ans.
Okay.
D'après la Cour, entre 2006 et 2019, divers incidents se sont produits à l'encontre des Autochtones. Elle énumère des actes d'agression, de violence, y compris tentatives d'assassinat, harcèlement, menaces, etc. Enfin, la Cour a considéré que la non-reconnaissance de la propriété collective et l'activité minière avaient un impact sur la vie de la communauté Maya. Le tribunal a ainsi ordonné l'arrêt immédiat de toutes les activités minières sur le site et l'État guatémaltèque va aussi devoir octroyer des titres fonciers aux Kekchi. Donc, voilà, quand même intéressant.
Ben oui, le nickel, ça fait 20 ans qu'il est en exploitation là, dans cette région-là.
Oui, plus que 20 ans même. Oui, c'est là, que ça fait 20 ans qu'il y a des démarches pour contester, oui.
Là, étant un matériau critique, ça doit être encore sollicité, disons.
Exactement. sinon, ben, dans le même ordre d'idée, je vous suggère un texte qui s'appelle « Les défis du gouvernement Arévalo face à l'extractivisme au Guatemala ». C'est le CEDAL, CEDAL.org, de février 2024. Ça vous tente de vous informer sur les enjeux autochtones au Guatemala. Sinon, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé fin février que le Canada met en place un nouveau régime de sanctions au titre de la loi sur les mesures économiques spéciales en réponse à la grave situation au Guatemala. Les sanctions annoncées visent 4 personnes qui ont participé à des activités ayant favorisé la corruption et commis des violations flagrantes des droits de la personne en toute impunité, y compris sous l'administration précédente du président Djamatei et au-delà. Les personnes sanctionnées ont travaillé sans relâche pour saper la démocratie et empêcher une transition pacifique du pouvoir. Tu te rappelles, j'en avais parlé.
Oui, c'était toute une saga, là, d'ailleurs.
Oui, des procureurs, des avocats, des ministres. Ces sanctions serviront à dissuader les fonctionnaires corrompus de prendre des mesures obstructionnistes ainsi qu'à soutenir et ainsi à viser à soutenir le gouvernement démocratiquement élu d'Arévalo. Le Canada impose ses sanctions avec d'autres partenaires internationaux, ses habituels partenaires États-Unis, Angleterre et compagnie.
Israël.
Je sais pas. c'est ça pour le Guatemala, c'est des petites nouvelles. En Argentine, le 1er mars, pour son premier discours sur l'état de la nation, le président argentin Milei s'est montré fidèle à son style transgressif, affirmant être déterminé à pousser plus en avant ses réformes, coûte que coûte, face aux parlementaires qui, au début de février, avaient bloqué son ambitieux train de mesures de dérégulation et d'austérité budgétaire. Il a rappelé aux députés qu'il traitait ces dernières semaines de Niara, de corrompus et de symboles de la caste politique.
De Niara?
Un hydra.
Ouais.
Il a... Oui, puis tu m'as fait perdre de un petit peu au député qu'il peut utiliser des décrets, des modifications réglementaires, des projets de loi pour lutter, entre guillemets, contre le déficit budgétaire. Pour autant, le chef de l'État a tendu une main à l'ensemble de la classe politique, des influents gouverneurs des provinces aux dirigeants de partis, ex-présidents, pour forger un nouveau contrat social sur la base de 10 principes ultralibéraux, équilibre budgétaire non négociable, propriété privée inviolable, dépenses publiques réduites au niveau historique de 25 % du PIB, entre autres. Ce pacte de mai, comme il l'a baptisé, serait signé à Cordoba symboliquement le 25 mai prochain, date anniversaire de la révolution de 1810 qui a mené à l'indépendance de l'Argentine. Sur le plan social, Milei a demandé patience et confiance aux Argentins malgré l'impact des premières mesures d'austérité, entre autres la dévaluation de plus de 50 % du peso, libéralisation des prix, fin de nombreuses subventions, qui à court terme donne un coup de fouet à l'inflation et entraîne une baisse de l'activité économique.
Donc, l'inflation du peso, parce qu'il y a toujours comme projet d'aller vers le dollar américain, j'imagine.
C'est moins clair. C'est moins présent, oui.
Non, c'est ça, c'est que le seul point positif, c'est que l'inflation a vraiment beaucoup diminué. A diminué de moitié, il était à 20-quelques %. Là, c'est descendu à genre 13%.
Oui, c'est sûr que ça peut aider les classes les moins nantis.
Oui, mais en même temps, ils coupent partout.
Ils coupent des subventions, c'est ça,
dans les aides sociales.
Il a d'ailleurs aussi annoncé un projet de loi anti-caste avec diverses propositions, notamment une limite des mandats des dirigeants syndicaux, la réduction du nombre d'assistants parlementaires, la fin des avantages pour les ex-présidents, etc. Il a aussi annoncé la fermeture de l'agence de presse publique TELAM, inféodé, selon lui, à la gang de péronistes des Kirchner. Fondée en 1945, TELAM compte plus de 700 salariés et diffuse chaque jour environ 500 dépêches d'actualité. Sinon, les mouvements paysans et les peuples indigènes s'organisent aussi dans tout le pays. Ils rejettent le méga décret de Milei et le projet de loi Omnibus, là, les deux fameux super projets. Ils dénoncent le fait qu'en plus d'être antidémocratiques, ils sont des outils pour l'avancement de l'extractivisme, la saisie des territoires ancestraux et qu'ils ont un fort impact sur la production et la souveraineté alimentaire. Cette semaine, des accrochages répétés entre police et manifestants ont marqué lundi dernier en Argentine une journée de manifestation pour l'urgence alimentaire et contre l'austérité, coïncidant avec les 100 jours au pouvoir de Javier Milei.
Déjà 100 jours, OK.
Depuis décembre, oui. La journée d'action à travers le pays sous le mot d'ordre « La limite, c'est la fin » répondait à l'appel d'organisations de gauche et de mouvements sociaux, déjà à l'origine de plusieurs mobilisations de rue depuis l'arrivée au pouvoir de Milei le 10 décembre, justement. Ces organisateurs dénoncent le gouvernement pour le manque d'approvisionnement alimentaire depuis des mois de milliers de soupes populaires et communautaires des quartiers pauvres à travers le pays, réduits à dépendre de la débrouille des travailleurs sociaux pour remplir les plats de millions de personnes. Le pouvoir dément avoir cessé l'approvisionnement, mais dit mener un audit rigoureux de l'aide et mettre en place un système transparent où les soupes populaires dûment recensées reçoivent l'aide en direct sans les intermédiaires que le pouvoir qualifie de gestionnaires de la pauvreté.
Bon.
Fait qu'on coupe les soupes populaires aussi en même temps.
Ben
fait
oui, que sous prétexte d'aider les pauvres.
Exactement. Donc, je vous suggère aussi une autre lecture. Je vais vous en lire un petit extrait. Ça s'appelle « La démocratie peut se heurter à des obstacles. L'avertissement de Nayib Bukele à Milei ». L'article est sur, encore une fois, le CEDAL, cdhal.org, qui date du mois de février aussi. Un extrait. Les présidents du Salvador et de l'Argentine ont de nombreux points communs. Il s'agit de deux hommes politiques relativement jeunes, 53 pour un dans le sud, 42 pour celui en Amérique centrale, qui se considèrent comme les messies politiques de leurs pays respectifs, les étendards d'un nouvel ordre dirigé, gouverné et exécuté par eux, et seulement par eux, grâce auxquels ils sauveront la nation des excès d'autrui.
C'est beaucoup de pression qu'ils se mettent à eux-mêmes.
Ouais, ils vont faire des dépressions, je pense.
Ça se peut. It's burnout.
Il y a bien sûr des différences. Bukele est un populiste pur et dur. Milei, un ultra-libéral, néolibéral pur et dur, plus ami du vieux consensus de Washington des années 70 que d'autres choses. Mais une chose semble les unir, leur mépris de la démocratie, qu'ils semblent considérer comme un obstacle gênant. Et d'ailleurs, Nayib Bukele se présente pour un deuxième mandat, ce qui est complètement illégal au Salvador. T'as pas le droit de
c'est inconstitutionnel.
C'est inconstitutionnel. Fait que ça donne une idée. Vas-y, Simon. Une minute? Ah, c'est
oui,
ça?
Oui, je te laisse une minute.
Je vais juste annoncer un article dont je parlerai peut-être à la prochaine émission, qui est vraiment intéressant, qui s'appelle « Que se passe-t-il vraiment à la frontière entre les États-Unis et le Mexique? » C'était publié le 2 mars dernier sur le site de Radio-Canada. Ça met à jour un peu le nombre d'interceptions à la frontière dans la dernière année, mais ça analyse un peu les changements d'immigration, des personnes qui arrivent à la frontière américano-mexicaine, et donc je vous en parle donc dans un prochain épisode. C'est mon bout USA dont j'aurais pas le temps de parler.
Parfait, ben c'est bien de prendre le temps de l'expliquer correctement
aussi.
Oui,
c'est vraiment
intéressant.
C'est
des dossiers assez... Ouais. Donc merci Mathieu, avant d'aller en musique, quelques mots encore, le CEDAL, le Comité pour les droits humains en Amérique latine, qui tient à nous rappeler l'importance d'un document qui a été publié l'année dernière par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, dont le titre est, Les femmes privées de liberté dans les Amériques, document de référence sur les discriminations dont sont spécifiquement victimes les femmes détenues et plus particulièrement les femmes détenues avec enfants. On nous rappelle qu'en 20 ans, la proportion de la population carcérale féminine a doublé dans l'Amérique latine, passant de 8 à 16%, que les politiques sont généralement très mal adaptées aux réalités féminines, encore moins à celles des proches qui gravitent autour des femmes emprisonnées, particulièrement les enfants, que souvent ils étaient chefs de famille et ont commis des délits dans le but de mieux répondre aux besoins fondamentaux justement de la famille, que beaucoup d'entre elles ont subi des violences physiques, économiques et psychologiques avant leur incarcération et qu'elles sont plus sujettes que les hommes à l'emprisonnement préventif et informel. Je vais citer Julieta Morales Sanchez, professeure à l'UNAM et non l'UQAM de Mexico.
C'est la même chose.
Non, pas vrai. Enfin, de nombreuses prisons pour femmes dans les Amériques ne prévoient pas d'espace pour les visites conjugales parce que les femmes sont abandonnées par leur famille, parce qu'elles ont défié le stéréotype de la femme bonne, noble et respectueuse de la loi. Fin de la citation. Et ça, même si la plupart des délits commis par des femmes sont considérés comme mineurs et non violents. Donc, merci au CEDAL de remettre en lumière ce guide de référence de 175 pages rempli d'informations, de statistiques. Malheureusement, seulement disponible en espagnol pour l'instant. Le titre, Mujeres privadas de libertad en las Américas. Donc, je vous traduis un peu au hasard l'une des nombreuses recommandations, soit de donner la priorité aux mesures alternatives à l'emprisonnement pour les femmes enceintes et les personnes qui s'occupent principalement ou exclusivement de mineurs. On va maintenant aller en musique. On va écouter une première pièce musicale de l'album sorti en septembre dernier sur l'étiquette Constellation. Coen Coen Chapter 5 in the Garden de la saxophoniste de New York Matana Roberts avec la pièce How Prophetic, qui est un manifeste contre le manque d'accès à des services d'avortement sécuritaires et abordables aux États-Unis, ce qui affecte de manière disproportionnée les femmes les moins nanties. On écoute donc Matana Roberts, la pièce How Prophetic.
Child, the shame I felt. I would just lay there and wonder, does he see me? Gaze so absent on a secret mission, and me, though a willing collaborator, still a minor character in a backstory that didn't truly belong to me. Though I knew I was there, you would have thought I was as ghostly as I am now. And if for one moment I might guide his movements, knowing the location of my own desire, or asked to delay the impending pressure until I could position myself pleasurably so, I would be accused of Jezebel behavior, eschewing duty, messing up the balance of what I was destined by God, he said, to receive. Josephine said, wives don't get those moments, and that it was blasphemous and beyond deviant to even inquire. You raise better than that. She said, a dutiful wife is an angel of the ages. You smile, you look pretty, but stay on the borderline of dumb, undramatic, and devoted. Now your charge. I had some reservations about him. Really didn't pay much attention. I just gave it to God to sort out my worry. It tickles me when I think about it too much because, honey, he really tried it. He tried to ruin my sense of self-worth with every move. I think about what Truth used to say. She said, if I have to answer for the deeds done in my body just as much as man, I have a right to have as much as a man. In the early days, he looked at me with such love and care. By the end days, honey, he looked at me with disdain and wild, paranoid suspicion. Made me feel like a slave in my own soul. Well, they didn't know I was electric, alive, spirited, fire, and free. My spirit overshadowing, my dreams too bombastic, my eyes too sparkling, my laughter too true. My name is your name. Our name is their name. We are named, we remember, they forget. My name is your name, our name is their name. We are named, we remember, they forget. My name is your name, our name is their name. We are named, We remember, they forget.
Matana Roberts sur choc.ca. Il y a Marie-Ève qui est venue me rejoindre dans le studio principal pour des actualités autour de la Manche. Mais tout d'abord, je vous donne le chiffre suivant. 8565, qui est le nombre de morts confirmées sur les routes migratoires en 2023, un triste record historique. C'est 20% de plus qu'en 2022. Les chiffres sont compilés depuis 2014 dans la base de données Projet Migrants Disparus, tenue par l'OIM, l'Office international pour l'immigration. Le précédent record, c'était en 2016, avec un peu plus de 8000 morts confirmés. Les chiffres demeurent sous-estimés, on s'en doute, parce que plusieurs décès échappent au signalement. Des 8500 décès de 2023, plus de la moitié sont dus à des noyades. Le reste à des accidents de véhicule, à des actes de violence ou aux conditions de santé, blessures, famine, déshydratation. La route maritime de la Méditerranée demeure la route la plus meurtrière, avec 3129 décès confirmés l'année passée. Les autres endroits les plus meurtriers sont dans l'ordre la route terrestre du Sahara, ensuite la route maritime des îles Canaries dans l'Atlantique et finalement les routes terrestres autour de l'Afghanistan et celles autour du Myanmar. Pour consulter la base de données, je vous invite à aller sur missingmigrants.iom.int. Fin février, il y a l'Ombudsman européen qui a publié un rapport sur la réponse de Frontex et des autorités maritimes grecques. À ce qui, je crois, est la plus importante tragédie migratoire de l'histoire, c'était en juin 2023, vous vous en rappelez sûrement, 750 personnes entassées à bord, le bateau a chaviré, tuant plus de 600 migrants d'un seul coup. Selon le rapport, Frontex aurait pu, sans en être légalement contraint, lancer ce qu'on appelle une alerte Mayday, qui est la procédure internationale officielle en cas d'urgence vitale. Frontex avait survolé et constaté par avion la présence du bateau surpeuplé. Mais c'est ça, normalement, ce sont les États qui doivent coordonner les opérations de sauvetage, qui doivent les lancer. Donc, Frontex a avisé les autorités grecques, 4 messages selon le rapport, messages auxquels personne du côté grec n'a jamais répondu. Donc là, je résume très sommairement. Donc, Emily O'Reilly, la porte-parole de l'Ombudsman européen, épingle surtout les autorités grecques pour leur passivité dans cette tragédie et va jusqu'à recommander à Frontex de carrément cesser ses activités dans les eaux territoriales des États qui ne respectent ni leurs obligations internationales ni les droits humains fondamentaux. On les connaît, ces États délinquants, ils le sont tous un peu, mais la Grèce est peut-être le pire. Elle recommande aussi que le Parlement européen se penche à nouveau, encore une fois, sur le partage des responsabilités entre ces agences et celles des États membres, parce que ces cafouillages-là sont quand même fréquents et ont souvent des conséquences catastrophiques. Dans un autre dossier, on s'en va à l'un des points d'entrée de la route des Balkans, à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, où toujours Frontex, a annoncé tripler le nombre de ses agents pour passer de 200 à 600. Raison officieuse, le 31 mars, dans 10 jours, donc, la Bulgarie, qui est déjà membre de l'Union européenne, va officiellement intégrer l'espace Schengen, donc faire partie de cet immense territoire dit de libre circulation. Par contre, la raison principale qu'on prononce un peu moins fort, c'est qu'il y a de nombreux rapports et témoignages qui font état de mauvais traitements sur les demandeurs d'asile et de refoulement sommaire par la police bulgare. Il y a eu une enquête du réseau Balkan Investigative Reporting Network, le BIRN, qui indique que la police bulgare force parfois des migrants qui ne savent pas nager ou qui sont très affaiblis à retourner en Turquie à la nage. On parle aussi de coups et blessures, de morsures par les chiens policiers, d'insultes racistes. On traite, paraît-il, régulièrement les exilés de talibans. Donc, nouveau scandale pour Frontex, qui est au courant de ces pratiques violentes et illégales depuis au moins l'été 2022. Et l'un des mandats de l'agence, on l'oublie parfois, c'est de s'assurer du respect des droits humains aux frontières européennes.
C'est cela, oui.
Donc, Frontex faillit encore une fois à sa mission. Alors voilà, un peu sur le tard, on envoie des centaines d'agents auxquels on va greffer quelques spécialistes en droits humains pour observer sur place, pour peut-être former la police bulgare. Bonne chance, et éventuellement, peut-être pondre un rapport et émettre des recommandations. On s'en va maintenant retrouver Marie-Ève vers un point chaud, toujours aux frontières de l'Europe, mais beaucoup plus au nord.
Exactement, oui, on se rend au Royaume-Uni. C'est que pour se rendre au Royaume-Uni depuis la France, de plus en plus de personnes migrantes tentent d'emprunter des cours d'eau qui se jettent dans la Manche pour éviter les nombreuses interceptions sur les plages du littoral du Nord et du Pas-de-Calais le long de la Manche, parce qu'officiellement, ben, les autorités n'ont pas le droit d'intervenir une fois que les embarcations sont mises à l'eau. Donc, okay. On part d'un fleuve, on les met dans l'eau, on s'en va vers la Manche, puis là, ben, c'est ça. Puis comme il n'y a pas de policiers, puis comme il y a moins de présence des autorités sur les berges de ces cours d'eau-là, ben, c'est une façon de contourner.
Toujours en France, j'imagine.
Oui. Ouais. Selon les autorités, il y a une dizaine de départs qui ont été comptabilisés sur l'A, qui est un fleuve qui s'écrit A-A. Depuis quelques semaines, et 26 sur la Canche en trois mois. Ce sont deux fleuves donc qui se jettent dans la Manche. Et depuis quelques mois, ben, y a plusieurs départs qui se font aussi depuis la baie de la Somme. Pour stopper le phénomène, ben, les autorités multiplient les installations de barrages flottants.
Ah oui.
Les associations qui viennent en aide aux personnes migrantes font le même constat, et selon elles, même si c'est un phénomène qui reste somme toute assez restreint, ça montre que les migrants cherchent des solutions alternatives parce que ben il y a rien d'autre qui leur est proposé. Pour eux et elles, il y a toujours pas de possibilité de se rendre en Angleterre de façon légale depuis la France. Et cette nouvelle stratégie-là de traversée est pas infaillible et entraîne son lot de drames humains. Au début du mois, à Watten, une fillette, toujours dans le Pas-de-Calais, là, une fillette de 7 ans est morte noyée après avoir embarqué avec une quinzaine d'autres migrantes, dont sa famille, sur un bateau trop petit, puis qui a coulé dans là. Le lendemain du drame, les associations se sont réunies dans le centre-ville de Calais pour une veillée aux chandelles en sa mémoire, mais aussi pour rendre hommage aux disparus de la Manche, parce que depuis le début de l'année, c'est le troisième drame du genre dans le nord de la France. En tout, c'est déjà 9 personnes migrantes qui ont perdu la vie en 2024 en tentant de rejoindre les côtes anglaises, comparativement à 12 pour toute l'année 2023.
OK.
C'est sûr que, bon, c'est pas autant qu'ailleurs, là, mais une mort, c'est une mort de trop. Et donc, ben quand on voit ça, c'est pas mal certain que les morts pendant la traversée de la Manche seront beaucoup plus élevées en 2024, d'autant que les traversées au début mars ont franchi des records. En 2 jours, il y a plus de 700 personnes qui sont débarquées au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche. Et donc, depuis le début de l'année, c'est quelques 3000 exilés qui ont effectué la traversée selon les dernières données du Home Office. En réaction, ben, Paris et Londres ont annoncé un nouveau partenariat douanier destiné, et je cite, à perturber la chaîne d'approvisionnement en petites embarcations utilisées par les passeurs. Les détails de l'initiative sont pas connus et vont être discutés en avril entre ceux qu'on appelle, et que je ne connaissais pas, le groupe de Calais, et qui est composé, et bien sûr, du Royaume-Uni et de la France, mais aussi de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Et puis, si au moins la très grande majorité atteint le Royaume-Uni, reste que celles, ils et elles, sont pas au bout de leur peine, parce que depuis l'entrée en vigueur du Nationality and Borders Act en juin 2022, les autorités britanniques ont multiplié les arrestations de personnes migrantes débarquées sur leur territoire en embarcation de fortune, d'après une étude menée par l'Université d'Oxford et une coalition d'organisations caritatives. En un an, il y a environ 240 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette loi-là, qui prévoit des peines de prison ferme pour les exilés condamnés. Selon les chercheurs, les ressortissants albanais, soudanais et égyptiens sont surreprésentés.
Ah bon, égyptiens, OK.
Parmi les personnes arrêtées pour entrée illégale, on dit surreprésentés proportionnellement à leur représentativité dans les arrivées.
OK.
Une infraction plus grave qui est aussi inscrite dans cette loi-là, dans l'article 25 de cette loi-là, donc consiste à faciliter l'arrivée dans le pays et est admissible de la peine maximale de réclusion à perpétuité. Donc, depuis la promulgation de la loi, c'est 49 personnes qui ont été accusées d'avoir commis ce délit-là en conduisant des embarcations, par exemple, puis 7 ont été condamnées. L'étude souligne l'augmentation des arrestations en lien avec cet article-là. En 2022, c'est 1 personne sur 10 qui était arrêtée pour son rôle présumé dans la conduite d'un bateau, alors que là, en 2023, ce chiffre est passé à 1 personne sur 7. C'est d'autant plus inquiétant quand on sait que avoir été à la barre d'une embarcation suffit souvent pour être accusé, et c'est pas parce que on est à la barre d'une embarcation qu'on est un passeur. Le plus souvent, les preuves aussi sont constituées de photographies provenant de drones ou d'agents de la police des frontières qui sont équipés là, d'appareils super puissants. On utilise aussi parfois les témoignages d'autres passagers du canot qui suffisent à porter des accusations. Et dans au moins une des affaires observées au tribunal par Victoria Taylor, et membre doctorante au Centre de criminologie de l'Université de droit d'Oxford et membre du laboratoire de recherche Border Criminologies, la simple proximité de la barre du canot a été suffisante pour justifier l'inculpation, et ce, malgré les dénégations du prévenu. Un exemple, le 23 février, il y a un Sénégalais, Ibrahima Ba, qui a été condamné à 9 ans et demi de prison après le naufrage d'une embarcation le 14 décembre 2022, qui avait coûté la mort à 4 immigrants. Et contrairement aux autres passagers dans le bateau, ben Ibrahima Ba avait pas payé sa traversée. En échange de quoi, il devait conduire le canot.
OK, c'était alors, sa façon de payer son
exactement,
passage.
Exactement. Lors du procès, un des survivants a raconté donc le naufrage en racontant les cris, les appels à l'aide là, et avant qu'un bateau de pêche ne leur vienne en aide. Et il a aussi défendu Ibrahima Ba en expliquant que ce dernier avait essayé de rapprocher l'embarcation du bateau de pêche et que sans lui, je le cite, nous serions tous morts.
Ben forcément.
Je termine en disant que les arrestations dans le cadre du Nationality and Borders Act viseraient aussi les personnes mineures, ce qui est problématique quand on sait qu'en l'absence de papier d'identité, l'évaluation de l'âge des migrants se fait souvent sur des caractéristiques physiques aléatoires comme la voix cassée, une moustache, une mâchoire forte ou les épaules larges. En 2022, d'après un rapport publié par des ONG, au moins 867 migrants mineurs ont été considérés à tort comme des adultes par le home office, avec les conséquences qu'on connaît. Ils sont placés seuls dans des hébergements aux côtés d'adultes ou dans des centres de détention pour migrants où ils courent des risques importants.
Il y a tellement d'éléments qui me laissent songer dans tout ce que tu viens de dire. C'est briser une chaîne d'approvisionnement, ça va juste être des embarcations de fortune, mettre les gens encore plus en danger. Là, la proportion de passeurs a triplé par rapport au nombre de passeurs. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont très bizarres.
Ben, c'est la criminalisation de la migration en soi.
C'est l'élément le plus important, effectivement. Ouais. Donc, on retrouve Mathieu dans quelques secondes. Ben merci Marie-Ève. Maintenant, j'ai Mathieu en face de moi pour des actualités autochtones. Donc, on traverse l'Atlantique.
Écoute, je vais pas te reprendre, Simon, mais je vais parler d'immigration Québec-Canada. C'est toi qui vas parler d'actualités autochtones juste après.
Ah non, tu te trompes. Non, c'est pas vrai.
On inverse nos sujets. Passe-moi tes feuilles. Non, je vais parler. Ben, je vais commencer avec une.
Hey, la chicane. Là.
Non, on trouve toujours des solutions, voyons. On en a peu parlé, mais je voulais juste mentionner une déclaration du Centre communautaire des femmes sud-asiatiques en solidarité avec les femmes affectées par le projet de loi 21, parce qu'il y a eu une décision de la Cour d'appel du Québec récemment qui a rejeté la contestation de la loi sur la laïcité et blablabla. Mm-hmm. Et elle, c'est ce groupe-là de femmes sud-asiatiques. Rappelle que ce projet de loi va à l'encontre du droit à l'égalité pour toutes les femmes, que l'adoption de la loi, les débats qui en ont découlé et le problème actuel ont alimenté l'islamophobie, entre autres au Québec. Et je les cite, « Nous n'accepterons jamais que l'État ou la religion nous dicte comment nous habiller, ce qui limite notre capacité à participer à la société, à obtenir des services et à trouver un emploi. »
Ben oui, vivre finalement.
Exactement. Et on ne sait pas trop s'il va y avoir des appels de cette décision-là jusqu'en Cour suprême, sûrement, mais ça n'a pas été annoncé encore. Donc, je veux quand même le mentionner vu qu'on n'avait pas parlé à l'émission. Sinon, travailleurs migrants, travailleurs étrangers, 32 000 $ c'est le montant que doit payer Plastec, une usine de Sherbrooke, à une travailleuse mexicaine qui avait porté plainte à la CNSST au Québec parce que cette entreprise ne respectait pas les normes du travail. Rappelons que les travailleurs mexicains qui avaient été rencontrés par les médias en décembre dernier déploraient avoir été floués par Plastec, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles. Entre autres, ils alléguaient n'avoir jamais reçu le permis de travail promis, mais avoir travaillé malgré tout pendant plus d'un an à l'usine de Sherbrooke. Ils déploraient aussi que leurs heures supplémentaires à travailler étaient payées à 6 $ de l'heure.
6 $ de l'heure.
Oui, monsieur.
Pas loin avec ça.
Oui. La travailleuse en question n'aurait pas reçu plusieurs montants auxquels elle aurait droit. 28 000 en salaire, 900 en jours fériés et plus de 2 000 en paye de vacances. La directrice des ressources humaines de Plastec affirme avoir agi conformément aux recommandations d'un consultant en immigration.
Ben oui, comme s'il était une autorité en matière de demande de travail, tu sais.
Puis en plus, ils ont plein de support du fédéral s'ils veulent avoir d'informations.
Ben oui.
Elle soutient que les travailleurs n'avaient aucun permis de travail parce qu'ils n'auraient jamais travaillé à l'usine. Ils suivaient plutôt une formation de 12 mois.
Bien. C'est une longue formation.
Une longue formation. Plastec juge donc que puisque les Mexicains avaient un statut de visiteur dans le contexte d'un voyage d'affaires, ils étaient exemptés de l'obtention d'un permis de travail. Ils pouvaient aussi être rémunérés selon les normes en vigueur au Mexique, c'est-à-dire environ 235 $ par semaine. L'avocat spécialisé en droit de l'immigration, Krishna Gagné, affirme qu'il existe bel et bien des exemptions pour des visiteurs commerciaux pour des formations pour une période maximale de 6 mois, et non pas 12 mois. Toutefois, le visiteur ne doit jamais intégrer le marché du travail, c'est-à-dire qu'il ne doit pas effectuer les mêmes tâches qu'un collègue québécois dans une usine. Hein? Michel Pilon, du Réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrants agricoles du Québec, a le mandat de représenter la travailleuse qui a gagné dans cette affaire. Il est formel, ces travailleurs, pendant 12 mois, ont fait du travail comme les travailleurs québécois dans la même usine. La directrice des ressources humaines assure qu'il n'y a plus de travailleurs sans permis dans son usine. Avec l'expérience, on verrait certainement les affaires un peu différemment aujourd'hui, ajoute-t-elle.
Ben oui. Avec l'expérience.
Par ailleurs, cette entreprise aurait récemment reçu des autorisations des gouvernements pour embaucher 3 travailleurs étrangers temporaires avec un permis de travail. Mais elle a quand même fait savoir qu'elle contesterait la décision de la CNSST par rapport à la travailleuse, puis il y en a d'autres qui vont contester aussi des travailleurs. Au RATMAC, qui représente la travailleuse, on juge qu'il faut que cesse ce type de situation où une compagnie amène des gens du Mexique en les payant en bas du salaire minimum. Ça s'appelle du travail au noir, précise-t-il. Et aussi, ça fait qu'il n'y a pas d'impôts payés. Il y a, en tout cas, un paquet de choses comme ça. Toujours dans le même sujet, Québec a fait entrer plus de personnes munies d'un permis de travail fermé que de résidents permanents l'an dernier. Les chiffres sont sortis à la fin février.
Il y a vraiment un renversement historique, là.
Oui, oui, c'est le mot, Simon. La majorité d'entre eux sont arrivés sans que leur poste soit d'abord affiché pour les travailleurs locaux, ce qui est une obligation normalement. C'est donc une mesure d'exception qui est devenue la norme, déplorent les syndicats. Je cite un directeur québécois des Métallos. Le programme est totalement dénaturé. Il a été remplacé par un fast track pour les employeurs, une autoroute pour la précarisation. Il s'inquiète que les employeurs n'aient plus aucune pression pour donner des conditions de travail compétitives s'ils peuvent se tourner vers les travailleurs temporaires. Mm. En 2023, ce sont 63% des dossiers de travailleurs temporaires qui ont pu passer par le traitement simplifié. Cette mesure fait en sorte que les employeurs ne sont pas obligés d'afficher l'emploi au préalable ici et donc de faire la démonstration qu'ils ont cherché à recruter du personnel localement.
Ouais, mais c'est parce que c'est pour des formations de 1 an, là.
Oui, à 6 piastres de l'heure. Ouais.
Ce sont 58 000 permis fermés qui ont été octroyés en 2023 avec Laval de Québec. Pendant cette même période, ce sont 52 000 personnes qui sont devenues résidents permanents au Québec, dans la province. Donc, on voit vraiment la tendance. Depuis 2021, le gouvernement caquiste a fait de nombreuses démarches à Ottawa pour qu'il assouplisse le programme. Résultat, la liste des professions admissibles au traitement simplifié, Fast Track, s'est allongée de quelques dizaines à plus de 300 aujourd'hui, où ils n'ont plus besoin d'afficher les postes là, localement. Le fédéral avertit en ligne que les employeurs devraient faire de leur mieux pour recruter des citoyens canadiens, mais ils n'ont plus à fournir de preuves qu'ils le font de toute façon. Le Conseil du patronat du Québec parle quant à lui d'une forme de voie de contournement puisque l'immigration permanente est bouchée.
continue. Ouais.
À la demande de la ministre de l'immigration, Christine Fréchette, un groupe de travail se penche en ce moment sur les permis de travail fermés. En septembre dernier, le gouvernement se disait interpellé par des situations d'abus rapportées dans le cadre des permis fermés. Et on rappelle que en 2023, les 4 centrales syndicales majeures au Québec ont réclamé l'abolition des permis fermés parce que pour ça réglerait un peu le problème du moins de résidence permanente versus des travailleurs étrangers temporaires.
Tout le monde y gagne.
Exactement. À lire, donc, un grand dossier sur les travailleurs travailleurs autonomes. Ça a été rédigé...
Sur les travailleurs travailleurs autonomes?
Temporaires, pardon, excuse-moi.
Merci, Marie.
Grand dossier sur les travailleuses travailleurs temporaires à l'initiative de la FTQ, Fédération de travailleurs travailleuses du Québec. C'est sur le site Presse-toi à gauche ou pressegauche.org. C'est un grand dossier vraiment de plein de statistiques. C'est sorti à peu près il y a 2 semaines. Donc, presse-toi à gauche, mais le site, c'est pressegauche.org. Est-ce qu'il me reste 1 minute, Marie-Ève?
Oui.
Dans un autre sujet, Écoute, j'ai demandé à Marie-Ève parce que t'as la console, Simon. Je
l'ai pas, c'est, ouais, la, c'est la régie, c'est Marie-Ève.
C'est bon. Dieu.
Ben, petite nouvelle, ça va prendre même pas une minute. Terre-Neuve et Labrador, dirigé par un gouvernement libéral, est la seule province canadienne qui ne prévoit pas mettre fin à la pratique controversée d'incarcérer des migrants dans ses prisons provinciales.
Ah, c'est la dernière.
C'est la dernière qui a pas annoncé rien, puis ils annonceront rien. Si des détentions sont requises, elles seraient évaluées au cas par cas, a écrit le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de la province. L'an dernier, 6 personnes ont été emprisonnées en lien avec un dossier d'immigration. Bon, t'as Terre-Neuve, on s'entend.
C'est un petit, petite juridiction.
Oui, petit nombre d'immigrants qui se retrouvent là. Anna Gros, avocate en droit des réfugiés et chercheuse à Human Rights Watch, craint que l'Agence des services frontaliers y envoie des migrants que d'autres provinces refusent maintenant d'emprisonner. C'est ça un peu le danger.
Ah, un petit tour de passe-passe. Ben,
ben oui, qu'on sait qu'il en déplace actuellement parce que toutes les provinces, leur entente n'est pas terminée.
Nouveau-Brunswick, Saint-Pierre et Miquelon. Non, je dis.
Depuis juin 2022, 9 provinces refusent de détenir des personnes en lien avec un dossier d'immigration ou se sont engagées à le faire d'ici les prochains mois. Face à la décision des provinces, l'Agence des services frontaliers du Canada a indiqué en décembre dernier qu'elle effectuait des mises à niveau de ses 3 centres fédéraux de surveillance d'immigration à Laval, Toronto et à Surrey, en Colombie-Britannique, afin de pouvoir y garder principalement des personnes à risque élevé. Donc, c'est ça la situation actuellement. Je voulais juste vous dire cette petite nouvelle-là sur Terre-Neuve. En terminant mon bloc, Immigration Québec-Canada, Simon.
Ben merci. Tu as aussi beaucoup d'éléments qui me laissent dubitatif. quelque chose d'actualité autochtone maintenant, oui. C'est à mon tour. Surtout en lien avec l'environnement. Donc d'abord, le forum sur la gestion des urgences organisé par l'Assemblée des Premières Nations qui vient d'avoir lieu à Gatineau. Pour répondre aux catastrophes naturelles, on dépend souvent de l'aide que les provinces et Ottawa sont bien disposés à vouloir fournir. Donc, plaidoyer unanime pour avoir plus d'autonomie et pour se doter des moyens nécessaires, évidemment. Il faut dire que beaucoup de communautés vivent plus intensément que la moyenne canadienne les effets des changements climatiques et ça va pas s'améliorer. Écosystèmes bouleversés, fonte des glaces, le pergélisol qui se fragilise. Plus au sud, des sécheresses de plus en plus fréquentes, feux de forêt, inondations, tous des phénomènes dont on a un peu moins conscience quand on vit en ville. Non seulement l'Assemblée des Premières Nations veut des ressources à la hauteur des besoins, mais elle veut aller plus loin en amont, au moment de planifier le territoire, ne pas axer l'aménagement que sur le développement économique, donc changer un peu la façon dont on pense le territoire pour qu'il soit plus résilient, pour utiliser un terme à la mode. En étant plus autonome en cas de catastrophe, les communautés souhaitent mettre davantage leur culture et leur savoir au cœur des pratiques, être plus donc en adéquation avec les besoins réels. On parle par exemple de gestion de stress, de communication dans les langues locales, d'élaboration des protocoles d'urgence, avoir des espaces communautaires et des logements temporaires culturellement adaptés. On souhaite aussi décloisonner les ressources et les bonnes pratiques pour mieux les partager entre les différentes communautés partout à travers le Canada et même avec certaines communautés aux États-Unis. Il y avait quelques représentants de ministères fédéraux qui étaient sur place et certaines positions, dont la création d'un programme d'assurance dédié aux Premières Nations, ont été réitérées pour la 42e fois, mais il n'y a toujours pas d'annonce officielle. Donc voilà pour le forum sur la gestion des urgences. Maintenant, si j'ai le temps, 2 autres brèves autochtones avant de...
Vas-y.
J'y vais. On s'en va d'abord très au nord à Akulivik, au Nunavik, environ 600 Inuits y vivent. Les travailleurs de la santé et des services sociaux dénoncent des problèmes qui s'amplifient depuis des années, qui atteignent aujourd'hui un niveau d'urgence sanitaire qu'ils jugent extraordinaire et pour lesquels on met en cause le manque de leadership de la municipalité. Et on se dit carrément captif de l'aide extérieure. Donc, on évoque entre autres l'absence de collecte des ordures, une ambulance hors d'usage, le manque criant d'eau potable. Akulivik est un des rares villages qui n'a pas de système d'aqueduc. Tout se fait par camion-citerne, mais le système est déficient. Il peut maintenant se passer plusieurs semaines sans que les habitants puissent boire de l'eau ou se laver, avec les problèmes de salubrité que ça implique et pour lesquels les employés des services de santé se sentent bien démunis. Cri du cœur que les autorités municipales toutefois minimisent. Je ne sais pas si c'est pour donner l'impression qu'elles sont en contrôle, qu'elles font bien leur travail ou pour éviter de devoir dépendre encore plus de la SQ ou du provincial ou du fédéral.
C'est à la baie d'Hudson, hein, ça, je pense. Hein?
Oui, mais ouais. Vraiment très au nord.
Très au nord, ouais.
Au nord-ouest de Cujac.
Ouais.
Puis c'est seulement accessible par bateau et même pas par avion, je pense. Mm-hmm. Ou d'avion et bateau.
Ouais.
Situation donc très complexe. Ça reste difficile à résumer en une minute. Dossier plus complet dans Espace autochtone. Si vous faites une recherche avec comme mot-clé Akulivik, vous trouverez beaucoup plus d'explications. J'aurais aimé ça qu'on mette le lien dans notre page FB, mais la censure des médias canadiens persiste.
Là là.
On fait un bond de 1800 km au sud, presque juste ici à côté dans la communauté Mohawk d'Akwesasne, qui s'inquiète d'un projet d'usine de production d'hydrogène liquide de l'entreprise Air Products and Chemicals à seulement 30 km de là, dans l'État de New York. dans un endroit traditionnel de cueillette de plantes médicinales. On sait que la communauté est à cheval entre les deux pays, donc les élus Mohawks de l'État de New York ont bien été consultés, contrairement à ceux du côté canadien qui ont finalement eu droit, après des pressions, à une simple présentation il y a quelques jours, même si des deux côtés, on se partage le même bassin versant. Toute l'eau rejetée se retrouverait dans Saint-Laurent, dans une section de 80 km du fleuve qui est classée à la fois par les États-Unis, le Canada et Akwesasne comme une zone critique de pollution. Malgré les efforts récents de décontamination, efforts qui seraient anéantis par cette nouvelle usine, qui en plus des polluants qui seraient rejetés, de l'effet sur la température des eaux et du site de cueillette qu'elle détruirait, ça mettrait sur les routes de la région des camions d'hydrogène liquide hautement inflammables. C'est pourquoi un regroupement de résidents d'Akwesasne du côté canadien a demandé à l'État de New York de refuser de délivrer le permis à Air Products and Chemical, donc dossier à suivre. Est-ce qu'on est prêt à aller en musique?
Oui.
On écoute Bru avec la pièce « Je croque une pomme ». Aux apatrides anonymes, ça a l'air le fun, croquer une
c'est
pomme.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Je l'avais écouté rapidement chez moi. Là, j'étais comme, je pense que je vais manger une pomme
en sortant
de l'émission.
Une.
Donc, on écoutait Bru, originaire de Québec, formation queer féministe de Tanante, selon leur propre dire. C'est de leur album Eden et Retour en Saturne. Je ne sais pas pourquoi. Qui se trouve actuellement au palmarès local de Choc. Bru est en spectacle demain, vendredi 22 mars, au Fouf à Montréal avec Chou et Charogne. Et le lendemain, samedi 23, à Québec, au Pantoum. Grosse nouvelle judiciaire, fin février, les condamnations de Nathaniel Veltman sont tombées. On se rappelle de lui, il avait délibérément décimé une famille musulmane à London en 2021 en leur fonçant dessus en voiture. Il avait été reconnu coupable en novembre dernier des meurtres prémédités de 4 membres de la famille Afzal et de tentatives de meurtre contre le plus jeune, qui s'en est sorti avec des blessures graves. En regard de l'enquête qui a été menée, la juge a affirmé qu'il était clairement animé par une idéologie haineuse, intolérante et islamophobe et qu'il était sorti de chez lui cette journée-là, vêtu d'un uniforme de combat, déterminé à tuer des musulmans. Les peines à perpétuité sont cumulatives, donc je crois pas qu'il sorte de prison avant 25 ans. Et si j'ai bien compris, ce suprémaciste serait le premier blanc reconnu comme terroriste au Canada puisque la loi sur le terrorisme a été formellement évoquée et l'acte de terrorisme mentionné dans le jugement. ce qui n'avait pas été le cas, même dans le dossier d'Alexandre Bissonnette pour la tuerie de masse qu'il avait faite à la mosquée de Québec. Mmh. Les juges québécois ont peut-être une charte chromatique du terrorisme, je sais pas. Bref, le jugement ontarien va peut-être faire un peu peur aux suprémacistes qui gangrènent notre société et aussi peut-être remettre les pendules à l'heure pour le grand public sur la définition de ce qu'est un terroriste qui, aux surprises, peut être de n'importe quelle ethnicité. Je crois que j'ai Marie-Ève qui s'en vient ici.
Ben oui, c'est, je ben suis oui. là.
Marie-Ève, je t'écoute.
On continue sur la police et ses excroissances. Je ne sais pas si vous rappelez toute la commotion qui avait suscité l'existence de soi-disant postes de police non officiels dans les communautés chinoises du pays. Eh bien, figurez-vous que deux organismes communautaires chinois de la région de Montréal et leur directrice intente une poursuite en diffamation devant la Cour supérieure du Québec contre la GRC pour avoir prétendu que des postes de police clandestins du gouvernement chinois œuvraient à partir de leurs locaux. Ce sont le Service à la famille chinoise du Grand Montréal, le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud à Brossard, ainsi que leur directrice générale qui se nomme Xixi Li. Qui soutiennent que la GRC, et je cite, a adopté une approche cavalière qui a sciemment omis de tenir compte de leurs droits, fermez les guillemets. Ils soutiennent, entre autres, que non seulement les allégations à leur égard sont sans fondement, mais que la GRC a négligé de leur fournir des preuves à l'appui de ces prétentions-là, ou du moins d'expliquer la nature générale de ces éléments de preuve. Titre mis en contexte, à l'époque, c'est-à-dire en 2023, la GRC avait révélé publiquement que ces deux groupes-là faisaient l'objet d'une enquête policière, ce qui a eu pour effet, selon les deux organismes, de les condamner par avance dans l'opinion publique les a rendus, en quelque sorte, coupables.
Ouais, coupables par défaut. Là,
exact, ouais. Et ce, avant même que des accusations formelles ne soient déposées. D'ailleurs, en date d'aujourd'hui, l'enquête de la GRC a toujours pas donné lieu à quelconque accusation que ce soit. Les organismes affirment qu'ils avaient aucune idée qui faisait l'objet d'une enquête, ce qui rendait donc difficile la réponse aux allégations dans les médias, puis de la part des médias aussi.
Alors qu'ils auraient peut-être même collaboré à l'enquête, justement, pour laver leur propre réputation.
C'est ça. Donc, ils pouvaient pas donc répondre, ils savaient pas trop quoi répondre parce qu'ils savaient même pas de quoi ils étaient accusés exactement. Les organismes qui fournissent des services aux nouveaux arrivants, de même qu'aux aînés de la communauté chinoise, estiment que les allégations de la GRC leur ont coûté 3,2 millions de dollars. Ils soutiennent que leurs subventions gouvernementales ont été coupées à la suite de ça et que le locataire d'un immeuble montréalais qui appartenait à un des organismes a résilié son bail. Donc, en incluant les dommages moraux et punitifs, Mme Li et les deux organismes réclament plus de 4,9 millions de dollars à la police fédérale.
Est-ce que on sait s'il y a d'autres organismes, soit à Montréal ou dans d'autres grandes villes canadiennes, qui envisagent d'intenter des poursuites?
Aucune idée, mais dépendamment du jugement, je pense que ça va peut-être créer un précédent.
Ouais, parce qu'il y a eu des organismes à Toronto et à Vancouver qui ont eu la même.
Et d'autres à Montréal, je crois aussi.
Peut-être à Montréal aussi, oui.
Sinon, je vous parle aussi des prisons de juridiction provinciale au Québec, où selon un récent rapport de l'Observatoire des profilages. Un rapport basé sur des données du ministère de la Sécurité publique, eh bien, les morts survenues entre 2009 et 2022, entre les murs des prisons provinciales, ont augmenté de 87 %.
87 %.
Exact, ça. Oui, en seulement en beaucoup d'années, mais quand même. Durant cette période-là, 256 personnes seraient décédées dans des établissements de détention. Ce sont particulièrement les prisons de Bordeaux, de Rivière-des-Prairies et de Leclerc qui ressortent du lot pour le nombre de décès qui y sont survenus. La hausse marquée des décès est en partie attribuable à l'augmentation des morts par suicide, qui représente 98 personnes, soit 38 % de tous les décès. On le sait, les suicides en prison ont été particulièrement nombreux là, au cours de la pandémie, durant laquelle les mesures sanitaires ont beaucoup aggravé les conditions de détention qui étaient déjà source de violation des droits en temps normal.
Puis il y avait plus de visites, entre autres.
Exact, avec beaucoup d'isolement encore plus. Donc, il y a à peu près un tiers des personnes décédées dans les prisons québécoises durant la période étudiée qui seraient mortes de causes dites naturelles, là, qui découlent généralement de maladies. Mais le rapport, ce qui met surtout en lumière, c'est le manque de transparence des institutions carcérales vis-à-vis des décès qui surviennent entre leurs murs. C'est que la cause de la mort de 71 personnes, soit 28% du total des décès dénombrés, est qualifiée d'indéterminée. Une classification inquiétante selon les chercheuses.
Ben voyons.
Il faut savoir que le bureau du coroner doit produire un rapport sur toute mort survenue en prison. La cause et les circonstances des décès devraient éventuellement être identifiées au terme de ce processus-là. Or, dans le cas des causes indéterminées, il n'y a pas de suivi qui est fait au niveau de l'institution carcérale sur la cause de ces décès-là.
Okay,
fait qu'on ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé.
C'est pas parce que les enquêtes du coroner sont pas terminées.
Non. Hein? Okay. Les chercheuses remettent aussi en question la fiabilité des données qu'elles ont finalement réussi à obtenir du ministère de la Sécurité publique. C'est qu'en comparant les documents qu'elles ont obtenus avec des documents qui étaient disponibles déjà dans d'autres demandes d'accès à l'information, elles ont constaté que pour les mêmes années, le nombre de décès était pas le même. Fait que, par exemple, les données obtenues par un autre chercheur, mais à l'Université de Carleton cette fois-ci, montrent 53 décès de plus que ce qu'elles ont répertorié, puis ce à quoi ils ont eu accès.
Il y a vraiment de la négligence, là, au niveau de
l'autre, en tout cas. Autre faiblesse, le ministère tient pas de registre sur la description des personnes qui meurent en prison, sauf pour leur genre. Il y a donc aucun moyen de savoir si ces personnes-là étaient jeunes ou pas, si elles étaient racisées ou non, ni même sur la durée de leur incarcération, c'est-à-dire depuis quand elles étaient incarcérées. Pour la ligne des droits et libertés, ben elle juge que la seule solution en fait à moyen terme, ce serait de tenir une commission d'enquête publique pour faire la lumière sur tout ça. Le rapport s'intitule « Décès dans les prisons provinciales, état des lieux ». Et il est disponible en entier là, sur le site web de l'Observatoire des profilages. Vous pouvez aussi lire le très bon article paru sur Pivot à ce sujet-là. Pivot qui nous ont déjà tout prémanché, dont le titre est « Augmentation fulgurante des morts dans les prisons provinciales », parce que c'est quand même un gros rapport là, qui est publié. Donc voilà, vous pouvez aller lire ces deux documents-là, puis ça va vous donner une bonne idée, mais c'est effectivement assez inquiétant.
Pour faire la lumière, parce qu'il y a beaucoup de parts d'ombre dans tout ça.
Oui.
Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, on t'approche quelques casseroles et on revient avec plein de suggestions. Donc, à vos papiers, crayons, plein d'idées pour vous. Je vais y aller dans l'ordre chronologique à l'agenda. Premièrement, samedi prochain, 23 mars, manif pour Gaza, 14h au Square Dorchester à Montréal. C'est organisé par la Coalition du Québec Urgence Palestine qui regroupe 14 organisations. Pas besoin de résumer pourquoi il faut manifester, mais peut-être juste rappeler que le massacre d'une violence inouïe est perpétré depuis déjà 5 mois. Pour information, urgencepalestine.qc@gmail.com.
Ce qui vaut peut-être la peine d'être mentionné, c'est que c'est une méga, méga manif, là, un peu, là, les centrales syndicales, entre autres,
ouais.
Et le communautaire, c'est comme décider de se mobiliser.
Il y a eu la lettre des 450 médecins aujourd'hui, dont on sent que l'opinion publique commence à basculer, là, ouais. Sérieusement.
T'sais. Mais vu que les manifs ont été un peu moins nombreuses et moins de monde dans les dernières semaines, celle-là va être la plus grosse depuis le début.
Je pense que oui, ouais. Effectivement.
À Montréal.
Ensuite, on passe au lundi 25 mars de 18 à 20 heures, le lancement d'un balado, donc on est un peu moins dans les grosses manifestations. Le titre du balado, « Être une jeune femme de nouvelle génération vietnamienne née au Canada ». Ce sera une série de 4 épisodes présentés par l'Observatoire des profilages et par le Centre vietnamien des ressources communautaires, donc lundi prochain, 18 heures à la Maison du développement durable. 55 Sainte-Catherine-Ouest, métro Saint-Laurent, à Montréal. Information sur observatoiredesprofilages.ca où vous allez peut-être remarquer une autre campagne qui a lieu actuellement, la campagne « Bloquons la route au profilage au volant » contre les interceptions aléatoires ou le fameux « Driving while black », un phénomène bien vivant partout au Canada et au Québec. L'objectif de la campagne est de documenter les interceptions routières sans motif dans une optique scientifique citoyenne pas les interpellations, mais la campagne. Donc, pour ensuite démontrer les écarts qui existent entre personnes racisées et non racisées en les comparant. C'est tout simple, ça va prendre, ça prendrait quelques minutes à remplir en ligne et ça va permettre de ramasser des données très utiles. Vous pouvez, si vous êtes intéressé à y participer, observatoiredesprofilages.ca. Maintenant, des films présentés conjointement par la Ligue des droits et libertés et l'ONF toutes les trois semaines jusqu'au 28 mai dans le cadre d'un événement qui s'appelle « Les droits humains à l'affiche ». La prochaine projection, mercredi 27 mars, c'est un long métrage dont le titre est « Zéro tolérance » et qui pose la question suivante « Profilage racial et police, à quand la fin de l'impunité ?» Ce sera suivi d'une discussion avec des panélistes. Les projections auront lieu à la salle Alanis au Boumsawin, au siège de l'ONF Angle Maisonneuve et Bleury à Montréal. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur liguedesdroits.ca/film où vous trouverez aussi la programmation complète. 31 mars maintenant, une manifestation en appui aux personnes trans et non-binaires devant les bureaux du ministère de l'Éducation à Montréal au 600 Follum, métro Papineau à 14h. Grande manif, des pas sages en réaction à ce comité de soi-disant sages mis sur pied par le gouvernement de la CAQ qui veut se pencher sur les dangers de l'identité de genre à l'école, entre autres.
Ouh, on a peur!
Que je dis danger au péril, Marie-Ève a des effets spéciaux pour nous. Bref, ce comité de sages très grotesque qui ne comprend aucune personne trans ou non-binaire. Alors, pour appuyer vos amis de la diversité de genre qui vivent déjà toutes sortes de discriminations et de violences, c'est dimanche 31 mars, 14h, au 600 Follum. Information au pas-sage-au-pluriel.info. Le 5 avril, il y a le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, ouf, le CRIMIS, qui présente un webinaire seulement en ligne qui s'intitule « Contraception et immigration, obstacles et leviers d'accès aux soins ». On y analysera en quoi le fait d'avoir connu un parcours migratoire influence les pratiques contraceptives. On cherchera des pistes de solutions pour les femmes, autant pour celles exclues de l'assurance maladie que pour celles qui en bénéficient. C'est le vendredi 5 avril à midi. Tous les détails sur cremis.ca/événements. Toujours organisé par le CRIMIS, le vendredi suivant, le 12 avril, un séminaire en présentiel, cette fois « Regard croisé sur la santé des migrants-migrantes ». Une problématique qui est sujette aux controverses politiques, on en parle presque à chaque émission, voire aux outrances idéologiques qui exigent des réponses scientifiques et cliniques. 6 panélistes aux expertises et expériences variées seront sur place au 66 Sainte-Catherine-Est, métro Berry ou Saint-Laurent. Il faut s'inscrire au cremis.ca. Je répète la date, le vendredi 12 avril. C'est à 14h. Est-ce que j'ai le temps de parler d'un livre? Non. Donc, on va se retrouver après notre indicatif de quelques secondes pour la conclusion de l'émission. Avant de vous quitter, petite nouvelle insolite, mais pas drôle du tout. Ça nous est rapporté par Info Migrants qui fait état de 70 personnes migrantes refoulées presque complètement nues de la Serbie vers la Macédoine. Vidéo d'abord publiée par l'ONG nord-macédonienne Legis et validée et reprise par The Guardian. Ça se passe mi-février, la nuit, il fait à peu près 0 degré et non seulement ils sont en slip, mais ils n'ont plus d'effet personnel, donc plus de papier ni de cellulaire. Certains plus de chaussures non plus. Ce ne serait pas nécessairement la première fois qu'on constate des personnes refoulées nues, les déshabillages forcés, il y a même un terme pour ça. Ça a déjà été commis par les polices frontalières bulgares, croates et grecques, mais d'une telle ampleur, 70 migrants dépouillés dans le cadre d'un refoulement massif, ce serait sans précédent. Et ce type d'atteinte aussi grave que gratuite à la dignité humaine serait de plus en plus fréquent.
C'est surprenant que aucune de ces personnes n'en soit morte.
Ben, moi, je connais pas l'issue de ce refoulement massif.
C'est des migrants de quel pays, en ce qu'on sait?
Je n'ai pas l'information. Okay. C'est des pays du Proche-Orient. Mais donc, okay. J'imagine Afghanistan, Syrie.
On imagine.
Donc, sur cette note consternante, avant de vous quitter, je vous laisse nos coordonnées. Notre courriel apatridesanonymes@resist.ca. Notre site apatridesanonymes.info, Tous nos balados sont en rattrapage, évidemment, sur choc.ca. On peut aussi nous entendre dans l'Ouest canadien sur les ondes FM de Radio Victoria. Donc, on se retrouve... Oui, Mathieu?
Je voulais souligner que le 21 mars, aujourd'hui, c'était la journée internationale de lutte contre la discrimination raciale, qui est un truc un peu institutionnel, et que la semaine prochaine, c'est la Semaine québécoise d'action contre le racisme. Tu as parlé de certains événements qui étaient reliés, qui est aussi un truc institutionnel, mais je tiens à le souligner quand même.
Parfait. Donc, peut-être à l'agenda de la prochaine émission pour ajouter des activités en lien avec peut-être la semaine qui sera sur le point de se terminer, par contre.
Ça se peut qu'elle dure 2-3 semaines, mais à vérifier, oui.
Donc, on se retrouve normalement le 4 avril. Moi, ça se peut que je ne sois pas là. Mathieu et Marie-Ève, vous prépareront probablement quelque chose.
On va négocier.
On va regarder ça.
On va faire une petite
réunion. Peut-être une entrevue. Peut-être.
Un spécial, on verra. Oui, oui.
On verra.
Parfait. Donc, j'ai quasiment le goût d'y être, finalement. Donc, pour
tu prépares une minute coloniale et des demandes
peut-être,
spéciales.
Hein, peut-être. Ouais,
on a des pressions de la part de nos auditeurs, auditrices.
Ah oui, une petite minute coloniale sur Jeanne Mance, on parlait de ça. Donc, on va se laisser en musique, ben, comme d'habitude. On se laisse avec Kai, K-Y, projet solo de Kai Brooks, autrefois dans Long Butter, Famagots et Nag. Je connais aucun des trois groupes. Donc, Kai, la pièce Dragons de l'album Power to the Pharmacy, paru sur Constellation en mai 2023. Donc, merci tout le monde d'être à l'écoute. Merci beaucoup à mes deux comparses, Marie-Ève et Mathieu.
Ben, merci à toi, Simon, à l'animation.
Parfait, merci. Bonne soirée tout le monde. On écoute
Dragons
de Kai. Bye-bye.
Bonne soirée. We'll be right back.
like a great glove.